Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.
Et donc là, on va vous parler un peu de... On entame un peu... Notre thème de l'émission autour de encore l'enfermement des mineurs. Je dis encore parce qu'on a déjà fait plusieurs émissions sur ce sujet. Et du coup, pourquoi encore ce sujet? C'est un peu c'est l'envie de parler d'un livre que on va chroniquer. C'est aussi suite à l'écoute d'une émission qui s'appelle Minuit décousu et dans lequel il y avait une petite partie sur une révolte dans une prison. De mineurs, une prison pour femmes, enfin, pour personnes assignées femmes mineures. Et comme c'est pas souvent qu'on parle de révolte dans les prisons pour femmes, ça donnait envie de la diffuser. Et aussi, on parlera du traitement des mineurs dans les CRA, en particulier à Mayotte.
À Mayotte.
Aussi à Mayotte, en particulier. Ah. Voilà. Et du coup, ouais, dans d'autres émissions, là, on les mettra en lien, mais on a déjà parlé de l'enfermement dans les Bons Pasteurs, qui étaient les anciens lieux d'enfermement pour les personnes assignées femmes. On a déjà fait une émission aussi sur les CEF. Et récemment, il y a eu une émission aussi sur les EPM, les prisons pour mineurs. Donc là, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Peine mineure ». Qui a été édité aux éditions L'Arche de Sonia, je ne sais pas si je vais bien le prononcer à l'italienne, à la française.
À l'italienne.
Cambretto. Cambretto.
Je pense. Hein.
Ouais. Et ça s'appelle Chronique peine mineure. Alors, au début, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était comme livre. Et en fait, on apprend à la fin que c'est une pièce de théâtre qui a été écrite, c'est une commande pour une compagnie, l'Indicible Compagnie. Le livre, il est aussi inspiré par un livre dont on a sûrement déjà parlé dans cette émission, qui s'appelle Vagabonde, voleuse, vicieuse, de Véronique Blanchard, qui, elle, revient sur l'enfermement des mineurs dans les années après-guerre, 39-45. Et elle revient sur les trois catégories dans lesquelles étaient classés les mineurs à cette époque-là. Et du coup, ce livre, il est inspiré de ça, de ces témoignages, de ces recherches historiques, et aussi... inspiré de rencontres que l'auteur a fait avec des personnes enfermées en CEF. C'est un récit à plusieurs voix, à la première personne, de comment elles sont arrivées en CEF, leur relation à la répression, leur relation aux parents. C'est des récits de violences subies ou des récits de violences faites, des récits de vol ou de défonce, des récits de révolte envers les éducs ou les flics, de fugue, d'évasion, des récits de choses imaginaires et aussi de rêves. C'est des récits dans un style assez lapidaire, court, assez intense. Ça laisse assez bien entrevoir, imaginer certaines sensations. Et on se demande parfois aussi, quand même, surtout, je sais pas, peut-être un peu par mon point de vue un peu biaisé de parler souvent de ce sujet-là, mais qu'est-ce qui est part de vérité, d'imagination dans le livre. Et pour vous laisser un peu... apercevoir à quoi ressemble le style du livre, on va vous lire un petit extrait.
Vanessa, 14 ans. Si on n'est pas sanctionné, on a le droit à 5 cigarettes par jour. Une cigarette le matin quand on se lève, une cigarette à l'heure du déjeuner, une à 16h pour le goûter, une à 19h après le dîner, une le soir avant de monter dans les chambres. 5 cigarettes par jour. Alors, t'as vu, nous enlever une cigarette, c'est comme nous arracher un morceau de cœur. Sarah a tout balancé en l'air. Elle a commencé à se frapper la tête contre le mur. Elle s'est jetée par terre. L'encadrant, il a voulu la maîtriser. Il ne voulait pas qu'elle se fasse mal. Il a dit ça. Il a dit le seul moyen de la maîtriser, c'est de la tenir. Tenir, ça veut dire agripper. la grippait, pas par le cou ni par les pieds, par les mains. Il l'a plaquée au sol, l'a retournée sur le côté, lui a bloqué ses mains dans le dos, et pour pas que sa tête claque dans tous les sens, il lui a fait une prise. Une prise pour mieux la maintenir. La maintenir pour pas que ses mains et sa tête se débattent. Les pieds qui se débattent, c'est pas grave, il a dit. Les pieds, c'est pas un problème. Elle a recommencé à se taper la tête contre le sol, et là, l'encadrant, il a appelé à l'aide. Il a appelé Nora, l'encadrante du soir. Nora. Nora, c'est mon encadrante référente. Je la kiffe, mais elle parle trop. Vanessa, ton vrai problème à toi, c'est que tu oublies d'être une fille. On va un peu laisser de côté le jogging basket, hein. On va faire tes sourcils. Montre-moi tes ongles. On va faire ses ongles, hein. C'est joli, des ongles bien manucurés. On va t'épiler aussi. Pas tout, on en laissera un peu. On pourrait lisser tes cheveux. Ils sont un petit peu... tout en l'air, ces cheveux, non? Je pense. T'es sérieuse, toi? J'ai les cheveux blonds, mais à la base, ils sont pas blonds, ils sont roses. Le blond, je l'ai fait parce que mon chéri s'est fait blond. On reste toujours accordé par les cheveux. Sarah a recommencé à se débattre. Cette fois, ils s'y sont mis à deux. L'un pour la tête, l'autre pour les bras et les jambes. La directrice encadrante. Le bureau de veille, comme son nom l'indique, a pour fonction la veille. Les mineurs n'ont pas le droit d'y entrer sans convocation. L'écran fixé au mur, au-dessus du bureau, n'est ni un écran de télévision, ni un écran de jeux vidéo, ni un écran de karaoké. C'est un écran directement relié aux caméras de vidéosurveillance. Et des caméras de vidéosurveillance, il y en a partout. Ce qui signifie que l'on voit tout. Ce qui signifie que l'on entend tout. Ce qui signifie que l'on sait tout. Ce qui signifie que tu n'as pas respecté les règles. Ce qui signifie que tu te prends une sanction. Et pour ne pas que dans l'action, l'encadrant touche le corps de Sarah, surtout nos contacts, il a dit. L'encadrant a poussé avec ses fesses la porte qui donne sur la salle de veille et a libéré de la place pour les jambes de Sarah. Sarah s'est arrêtée de bouger. Ses yeux sont partis, je ne sais pas où. Ça m'a fait pleurer.
Merci pour cette lecture. Et ensuite, il va y avoir un long passage où on va lire le contenu des fouilles. Les fouilles, pour c'est eux qui ne savent pas ce que c'est l'inventaire qui est fait des affaires qu'on a quand on rentre en prison ou en CEF, par exemple. Et du coup, on va y lire les âges, entre 13 et 16 ans. On rentre un peu dans l'intimité, les bons becs, des trucs d'école, du maquillage, des trucs de première nécessité ou juste rien. Ensuite, on va avoir le récit de pourquoi elles ont été amenées là. Du rapport aux encadrants, du rapport entre elles, des règles, par exemple, pas de musique à l'intérieur des CEF, des maltraitances qu'elles vont subir dedans, de la violence dehors, du rôle des parents, du rapport à la dépendance. On lit aussi comment on les ramène aux normes féminines, avec l'épilation, on vient de le lire, un habillement plus féminin mais pas trop, encouragé au maquillage et comme punition de ne pas pouvoir se maquiller. Et hop, on repasse au bon pasteur en 1957. Et là, pareil, comment elles y arrivent, placées par leur famille ou un juge, l'assignation à des tâches de femmes, la prégnance de la religion, la vérification si elles sont vierges ou non. Et des fouilles beaucoup moins fournies que dans les années 2000. L'histoire aussi d'Annette, qui est placée par ses parents. Une famille qui vit à 5 dans 9 mètres carrés. Et ce qui nous fuit de la maison devient de la prostitution. On retourne aux années 2000 avec les injections contradictoires, finir tous les plats, ne pas grossir. Et là, par exemple, on va trouver que... hop. Les filles, l'enfermement vous fait prendre du poids. Il faut bouger. Faites du hula hoop. C'est un truc de fille, ça. Le hula hoop. Vous devriez y arriver. Et là, on repasse au bon pasteur. Regardez toujours droit devant vous. Si vous regardez en bas, le cerceau aura tendance à descendre. On avance un pied et on recule l'autre. Placez le cerceau au niveau de la taille. Puis pencher la hanche sur le côté. On tourne, tourne, on tourne. Ça, c'était avant, quand vous étiez dehors. Au pasteur, le hula hoop est interdit. Et ensuite, les moyens de surveillance qui changent. C'est pas facile de lire des petits extraits en même temps que tourner les pages.
On tourne les pages, je précise, on tourne les pages.
4 hectares de terrain, dont un hectare clos sécurisé. 6 bâtiments.
un grillage, une double clôture grillagée, une haie vive, un portail télécommandé, un système de visiophonie, des champs, un rideau de hêtre, des caméras de vidéosurveillance. Et là, on change d'époque. Une grande cour entourée de hauts murs surmontés de tessons de verre. Après 20 heures, la mère supérieure, une mère très sévère, lâche les chiens, des bergers allemands, dans la cour et les jardins. Et si les moyens de surveillance changent, les activités sont les mêmes, les âges et les envies de fugue aussi. Il y a aussi les deux catégories du bon pasteur, placées par les parents ou par les juges, comme on a dit, délinquantes ou pas encore. Les deux catégories qui avant étaient plus ou moins séparées et qui ne le sont plus maintenant. Le texte retranscrit bien que c'est toujours la même chose, les mêmes normes adaptées à l'époque, les similitudes, la continuité, les ambiances. Et donc que le but est le même, redresser, remettre dans le rang, avant des bonnes sœurs, aujourd'hui des boxeurs, et toujours l'envie d'évasion.
Gisèle, tu m'entends? Je vais te sortir de là. Non, Anton, c'est trop tard. Je suis piégée. Je voudrais mourir. Il y a une porte cachée qui donne sur le mur du cimetière. C'est par là que passent tes sœurs pour éviter les chiens quand elles sont lâchées. Je sais où se trouve la clé. Je suis trop fatiguée. Gisèle, on va sortir d'ici. On ira à la mer. Je n'ai jamais vu la mer. On ira à la mer comme deux amoureuses. On ne se quittera plus. En arrivant, tu commences par tout observer. Tu fais attention à comment c'est fait. Tu remarques tous les petits trous. Il y a un trou dans la haie. Si tu passes par la haie, tu peux faire le tour entier et atteindre le bout du grillage. Tu enjambes le grillage. Tu choisiras le dimanche matin, jour de ménage, certaines portes sont ouvertes. C'est du calcul. Il faut que tu saches où les caméras voient. Là-bas, dans le creux, il n'y a pas de caméra. Tu dois réfléchir tout le temps. Moi, j'ai le don de réfléchir en 10 secondes. Parce que quand la police vient te chercher chez toi à 6 heures du matin et que tu n'as qu'une seule minute pour réfléchir à comment tu vas fuguer, il faut que tu réfléchisses bien et vite.
Ben voilà, c'était une chronique du livre de Sonia Cambretto.
Mineur.
Et je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose, et sinon on va écouter une petite musique.
Sumido o mundo que me abales de gelar e entrar em coma profundo. Que estás farta das humilhações, do fracasso das relações, de conselhos e sugestões, bom senso e boas intenções, do corpo, do desporto, do teu sado, porque o sado é sempre baixo, o teu sado é muito alto. Tu estás farta dos e-mails e dos grupos do WhatsApp, dos chatos do chat, do teu chefe e toda a internet. Tu estás farta de segundas e de terças e de quartas e de quintas e de sextas, até das folgas te fartas, porque há brunch e sumos detox, laser e botox, porque há secas e dietas e profetas e blogs. E estás farta do bom gosto, do posto, imposto. Estás farta do bom moço e do desgosto, bem disposto. Estás farta até a ti. Mas bora colar os caquinhos e fazer um Gaudi. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudi. Fazer um Gaudi, bora fazer um Gaudi. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudi. Fazer um Gaudi, bora fazer um Gaudi. Eu sei que estás TPM, com fome mal dormida. Que estás farta da rotina e dizes mal da tua vida. Sem pachorra para nada, para nada, para nada. Para a make, para o date, para o face, para o eye, para o lifestyle, live stream, live fast, live the dream. Gente snob, pseudo-star, do indie ao mainstream. Farta do excesso, do processo e da pressa, do sexo, dos anjos, dos anos de stress, da falta de tempo, de falar do tempo, tudo ao mesmo tempo, sem tempo para ti. Da falta de jeito, de ficar sem jeito e de não haver jeito, de sair daí. Farta de clichês, de guichês, de porquês. Farta de tirar a senha e esperar pelo fim do mês. Estás de coração partido, ego ferido. Já vi, mas bora colar os caquinhos e fazer um Gaudi. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudi. Fazer um Gaudi, bora fazer um Gaudi. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudi. Fazer um Gaudi, bora fazer um Gaudi. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudi. Fazer um Gaudi, bora fazer um Gaudi. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudi. Fazer um Gaudi, bora fazer um Gaudi. Bora fazer um Gaudi. Os cabelos da DR, do
do divã, de falar de problemas e dos planos para amanhã. Trata de ser pró ou contra, anti ou semi, bora aceitar a indecisão e escolher o melhor para ti. Sem pena nem dilema, ter orgulho no bi. Há que aceitar a imperfeição para ser a melhor versão de si. E Ruana, cada escama é drama que passou por ti. Se este mundo é surreal, bora fazer um Dali. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudi. Fazer um Gaudi, bora fazer um Gaudi. Se este mundo é surreal, bora fazer um Dali. Fazer um Dali, bora fazer um Dali. Eu vou colar esses caquinhos e fazer um Gaudi. Fazer um Gaudi, bora fazer um Gaudi. Se este mundo é surreal, bora fazer um Dali. Fazer um Dali, bora fazer um Dali.
Vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Alors vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur carapatage.noblogs.org et aussi sur Instagram, vous pouvez retrouver nos publications.
Ouais, nos stories, le lien vers le blog, même nous envoyer un message si vous voulez.
Ouais. Et du coup, on revient un peu en arrière. On va parler de... Enfin, d'ailleurs, c'est pas nous qu'allons parler. Hein. C'est des personnes d'une émission de Lyon, je crois, qu'on peut écouter sur Radio Canu, Minuit Décousu, qui a fait... donc, c'est un enregistrement. C'est leur émission 153, s'il y en a qui veulent la retrouver. Et on la mettra aussi en lien sur le blog. Et on les remercie d'avoir fait cette émission. Et du coup, c'est le récit. Eux, ils appellent ça d'action militante, d'une révolte, d'une mutinerie. Dans une prison pour femmes pour mineurs de Fresnes en mai 47. Donc juste après la Seconde Guerre mondiale et aussi à un moment où, mais ça a déjà été parlé un peu dans l'émission sur le PM, où il y a une réforme de l'enfermement des mineurs qui est faite, mais où celui des personnes dans les prisons pour femmes n'est pas pris en compte. Donc c'est le moment aussi où les bons pasteurs vont continuer à exister pendant plusieurs dizaines d'années, quoi. Et donc, ça nous parlait de mettre cet extrait parce qu'on parle rarement de révolte dans les prisons pour femmes. On parle rarement aussi de révolte dans les prisons pour mineurs. Et du coup, bah, c'était assez chouette d'avoir trouvé ces archives et d'en avoir fait un bout d'émission. Peut-être on en reparle un peu après l'écoute. Bonne écoute.
Ça dure 13 minutes, donc on se retrouve après, quoi.
Détenus de 16 à 21 ans s'enivrent à l'éther et lapident les gardiens. Les révoltés boivent un tonneau de vin et font rougir les agents de police. Mais jolie, nostalgie d'herbe tendre, les prisonnières de Fresnes se sont révoltées.
Portes défoncées, carreaux qui s'envolent, pillage et escalade des murs de la tôle et enfin occupation du toit de la prison. En 1947, les filles de la prison de Fresnes se mutinent. Voleuses, fugueuses, vagabondes, petites vertus, filles perdues, mauvaises graines, les titres des journaux y vont à fond. Derrière ces figures ou images recyclées à partir de la nomenclature psycho-éducative des institutions correctives de mineurs de l'époque, il existe une réalité. Celle de l'enfermement de ces mineurs ou toutes jeunes adultes renvoyés à leur violence individuelle, leur hystérie collective, au diable qui les habite. Bref, tout sauf une existence propre, profondément attachée au désir de liberté et de casser les murs de toutes les prisons. Ce soir, on remonte le temps jusqu'au 6 mai 1947, le jour où les prisonnières de Fresnes ont fait le tour des journaux et des tribunaux après leur coup d'éclat.
I look at you and suddenly I start to pick your everywhere, seeping into everything.
Remettons un peu d'ordre dans les événements. En 1947, on sort tout juste du deuxième conflit mondial et la France en est encore à essayer de se dépêtrer des restes du régime de Vichy qui a profondément transformé l'ensemble des administrations publiques, à commencer part celui de la tôle. À l'époque, comme aujourd'hui, il ne fait pas bon d'être en dehors des normes en étant gosse. Les chiffres de la délinquance juvénile augmentent en même temps que les conditions de vie se dégradent entre 1941 et 1942. En 1945, l'éducation surveillée est créée en tant que division du ministère de la Justice, avec l'objectif d'ouvrir des établissements et des services permettant de mettre en œuvre la politique punitive contre ce qui est alors appelé délinquance juvénile. Alors que la pratique de l'enfermement des jeunes est de plus en plus marquée, le discours officiel porté par l'institution est celui de la promotion de l'éducation au détriment de la répression. Dans la continuité des réformes pensées et entreprises dans les années 30, la protection, la compréhension et la réinsertion constituent désormais des priorités pour la nouvelle division du ministère. Pourtant, si les structures pour jeunes garçons connaissent des changements d'envergure, il n'en va pas de même pour les mineurs. En 1946, Jean-Louis Costa, directeur de l'éducation surveillée, constate que pour celle-ci, beaucoup d'institutions sont restées telles qu'elles étaient il y a 50 ans. Pour les filles inéducables, comme on les appelle, la situation n'évolue guère et le nombre de places ouvertes en détention continue d'augmenter.
Pour moi, rien de nouveau, sinon que « je m'ennuie » devient le refrain de ma vie. Je le sens, je suis une fille perdue, une prostituée, ne peut pas avoir un idéal. Je n'ai qu'une chose à faire, essayer de m'agripper pour me sortir de cette crasse qui me fait tant souffrir. Vous le savez, je suis une fille, je ne suis pas une flemmarde, mais parfois je bouffe des briques. J'aurais du mal à me remonter car j'aime trop la fête, le champagne, la musique.
Fresnes présente la particularité d'abriter un service spécifique de l'éducation surveillée qui accueille des jeunes filles qui ont été préalablement placées dans d'autres institutions avant d'en être renvoyées pour fugue, tentative d'évasion ou mauvais comportement. Dans le rapport qu'il établit au lendemain de la mutinerie, Paul Lutz, inspecteur de l'éducation surveillée, les qualifie de filles les plus récalcitrantes et les plus perverties du pays, marquées par une indiscipline irréductible. Hébergées à Clermont-sur-Oise avant la Seconde Guerre mondiale, elles sont repliées dans un quartier spécial de la maison centrale de Rennes en 1940, puis déplacées à Fresnes à partir d'octobre 1946.
Ici J. La rescapée du ban de Fresnes. Quel triste souvenir, non ? Je viens seulement vous donner de mes nouvelles et parler du présent et non du passé. Je suis arrivée à comprendre que ni les femmes ni les hommes ne pouvaient me donner une joie comme un mur pur. Pendant 4 mois, j'ai lutté, pleuré, prié. Et il y a 8 jours hier, j'ai roulé plus bas que jamais. Mais les sœurs sont là et avec leur amour m'aident à mettre un pied devant l'autre pour reprendre le droit chemin. Les sœurs se dévouent vraiment pour nous et pour ces brebis galeuses.
Parmi les 82 filles de Fresnes, il y a 3 condamnées, 2 criminelles et 1 dénonciatrice de maquis. Les autres ont été placées pour vagabondage, prostitution, vol, incident à la liberté surveillée, etc. La plupart ont déjà fait des séjours à Cadillac ou dans des établissements du Bon Pasteur dont elles ont été renvoyées. Elles ont alors été considérées comme dangereuses, mais plus par la suite des déficiences de ces établissements que par suite d'une perversité foncière, de dangereuses, elles sont donc devenues inéducables. On cherche constamment à se débarrasser d'elles, les transférant sans cesse d'un établissement à l'autre.
Moi aussi j'ai démissionné. Oui, depuis hier à 2h, j'ai refusé de travailler. Pensez-vous, comme j'en ai assez de travailler pour 14 cents francs, ce sont de bonnes poires pour les filles de correction, ah oui. Mais attention, quand les poires se gâtent, on ne peut plus les manger, et quand la foudre éclate, on ne peut plus les arrêter.
Alors que depuis des mois, la situation se tend dans l'enceinte de Fresnes entre la direction, surveillants et les jeunes filles enfermées, la situation éclate le 6 mai 1947. Dans les bâtiments réservés aux filles dépendantes de l'éducation surveillée, vers 9h30, les mineurs de plusieurs groupes de travail se révoltent. Commençant par refuser l'obéissance des surveillants, elles insultent, les insultes pleuvent et elles refusent fermement de poursuivre leur travail avilissant. La mutinerie s'amplifie avec le saccage des coursives, les carreaux volent, le matériel de travail est détruit et le magasin est pillé. Devant la gravité de la situation et l'incapacité à reprendre le contrôle du bâtiment aux mutinés, un représentant de l'administration centrale est appelé sur place en fin de matinée. À son arrivée, il réussit avec un groupe de surveillants à les rassembler dans la cour de promenade. Une à deux heures après, au nez et à la barbe des gardiens, les jeunes femmes escaladent le mur d'enceinte et tournent sur le chemin de ronde en chantant devant le regard médusé des prisonniers masculins qui les acclament derrière leurs barreaux. Pendant des heures, elles arrivent à tenir leur position à renfort de haches, marteaux, barres de fer. Les renforts de police arrivent alors à les arrêter alors qu'elles cherchaient du pétrole pour mettre le feu à la prison. L'accrochage arrivera tout de même à blesser quelques gardiens. En tout, il aura fallu pas moins de 120 policiers mobilisés pour les déloger, de leur tour de garde. Un véritable tour de force.
Pas au dépôt, mais le problème de la jeunesse délinquante est d'une acuité toujours croissante. Les détenus de Fresnes, perverses, lucides et irréductibles, sont les victimes du printemps.
Les 38 détenus sont jugés en correctionnel à Paris dans les jours qui suivent avant d'être transférés. De peur d'avoir affaire à nouveau à un mouvement collectif ou à une trop grande perturbation de la salle d'audience, le juge décide de les faire comparaître une à une dans le box des accusés en avertissant la presse moins d'une journée avant la tenue de l'audience. Elles prendront toutes entre 6 et 8 mois de prison supplémentaires, chacune selon leur implication dans la mutinerie. Contrairement à ce qu'imaginait le juge, la décision finale ne les a nullement impressionnées et nombreuses sont celles qui ressortent de la salle en riant. 6 mois, chic, ce sera justement le jour de mes 21 ans, j'en ai de la veine. La seule condamnée à 8 mois de prison prend la parole face au juge pour dire « Tout cela, c'est à cause de la directrice qui était trop rosse avec nous. » Cette révolte paraît aujourd'hui très lointaine, l'histoire de l'enfermement des mineurs ne s'arrête pas là. Il y avait 752 mineurs incarcérés au 1er janvier 2021 en France. Ils représentent 1% de la population carcérale et sont écroués pour 76% d'entre eux en l'attente d'un jugement. La loi Perben de 2002 a entériné l'idée de construire des tôles spéciales pour les enfants de 13 à 18 ans, les établissements pénitentiaires pour mineurs. Elle se disait soucieuse de soustraire les jeunes aux mauvais exemples des délinquants confirmés qui avoisinaient leur quartier de rétention. Elle a surtout permis d'accroître le nombre de mineurs sous les barreaux. En parallèle, les centres éducatifs fermés et les centres éducatifs renforcés ont vu leur population augmenter. Dans le même temps, les quartiers mineurs des maisons d'arrêt sont restés ouverts. Mis en place à partir de 2007 sous la tutelle de Rachida Dati, les EPM sont au nombre de 6 en France aujourd'hui. Et l'enfermement des mineurs continue depuis leur ouverture comme une évidence à reconduire. Irrégularité gouffre, entracté, idée souffle, sur braise,
éviter le flou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un transfert pour Cadillac. Eh bien, à ce moment-là, je ne ferai plus rien, je serai buté pour de bon. Déjà, le moral est noir et sans soutien. Alors, vous pouvez vous représenter le château comme le tombeau de l'ennui et le cafard qui nous mine aura plus que jamais d'emprise sur nous. Quant à l'espoir, il n'y en a pas. Les filles de correction comme nous ne méritons pas grand-chose. Surtout là-bas, je serai plus souvent au cachot qu'à l'effectif, surtout du train où je vais. Déjà qu'à Rennes, j'ai fait du mitard et de la camisole. À Cadillac, ce sera pire.
Qu'est-ce Qu'est-ce que tu veux qu'on désamorce? Vider ce qu'on a sur le cœur. J'ai peu d'espoir qu'on tombe d'accord. Trop vite des coups ça mes cœurs. Regard qui compte mes pensées obscènes. Toujours elle tourne, je suis seule dans l'arène. La foule qui crie, qui juge ma haine. Y'a tous ces bruits parasites mes oreilles. Faire nos récits autre chose que faiblesse. Sans qu'ils se heurtent, sans perdre la tête. Que ça vaille la peine, ça vaille la peine.
Irrégularité gouffre. Contracté, il dessouffle. Sur elles, éviter le flou.
Sous le joug, je connais pas les règles. Coucou, je tolère pas les faibles. Tout, tout, je mousse qui sommeille. Lourd jour de ce monde de merde.
Vous étiez à écouter Minuit décousu et vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages.
Bah, c'était trop cool d'écouter cet extrait parce que comme tu le disais juste avant pile, c'est assez rare d'avoir des récits de mutinerie de mineurs et d'autant plus de mineurs meufs. Et voilà, enfin c'est trop stylé ce qu'elles font en vrai. Enfin ça dure longtemps, les flics sont débordés, il y a l'administration pénitentiaire centrale qui se ramène. Plein de flics, etc. Donc franchement, c'est trop cool d'avoir pu passer cette archive-là. Et aussi, le truc auquel ça me fait penser, c'est que il y a vraiment ce truc de dont elle parle, un peu les différents témoignages qui sont lus, d'être mis dans une catégorie et qu'en fait, tu sors du statut enfance et t'es mis dans la catégorie délinquance. Et après, ça se retrouve aussi, enfin, les personnes qui font de la tôle en étant mineures, souvent ça arrive qu'elles viennent de l'aide sociale à l'enfance et qu'après qu'elles continuent à faire de la tôle en étant majeures. Et donc, en fait, c'est genre un sorte de circuit dans lequel on te met, où les institutions, elles te contrôlent, que ce soit de manière protective, entre guillemets, ou de manière punitive. Mais où en fait l'État il contrôle la vie de ces personnes-là, et ça on le retrouve aussi quand on parle de l'hôpital psy, etc. Et donc ça c'était intéressant de voir ça.
Ouais, carrément. Et ben on va écouter une petite musique, mais j'ai oublié de dire qui on avait écouté avant en fait. En fait on avait écouté Capicua, Gaudi, et là on va écouter Merle Mocker de Billy Brelock. Enfin ouais voilà. En tout cas, on a écouté Capicua, on va écouter Billy Brelock.
Oui.
Millimètre en filigrane, je te stabile dans le crâne. Ce style instable distille, habile, évolubile. Quitte omnubile et distille, ses salves indélébiles. Ses potions de pistil, ses élans de presqu'île. J'deal du texte à pile en baril, tellement il qu'il congédie la combi des ma pile. Quand je fais mon cirque, ça scintille plus qu'à Piccadilly. Je garde à l'œil qu'au fond, Jekyll pourrait finir par Kill et Billy. J'ai dans le citron des nappes de nuées de piaf. Je suis des yeux, leur virage chorégraphe. Je traduis leur sauce-pisse entre deux tafs. Ils me kidnappent dans leur cap cartographe. Ils captent mes synapses et me capturent dans la toile de leur simultané bal plané de figures. Retourne et repeigne le ciel de mon ventre. De quoi faut-il à ce point que je me déconcentre? Sous les hélicos ragisseurs, tapageurs et patrouilleurs, je regarde le monde à l'extérieur avec ce que j'ai à l'intérieur. Sous les hélicos ratisseurs, tapageurs, patrouilleurs, baladeurs, je monte le son dans les écouteurs, j'entends les murmures, rieurs des murs et des merles moqueurs qui refont le monde à l'extérieur avec ce qu'ils ont à l'intérieur. Mon regard hagard s'égare entre les gares, sur ces hangars vantards, puis ces camtars bavards qui sont qui égarent, s'emparent des boulevards tôt ou tard, et poussent sur les radars en arguant les jetards, hurlant en gras et en grand à coups de griffes, à coups de dents, à qui l'entend, la rue sera à qui l'apprend. J'ai des ressources à la louche, quand je sursaute à la perche, cette femme qui est trop farouche, finirait pas sur son merge, elle qu'aime tellement faire mouche qu'elle aille flairer d'autres berges. J'ai tout de suite vu que sa bouche était son moteur de recherche, m'en conne qu'elle est là dans le chafage chez Selecta. Je viens chaparder les plans d'un architecte dictat, arracher les branches. franchement de ces dialectes dit que ça c'est rodka, le grand chambardement, je m'en délecte déjà. Entre bourrasques, narquoises et paroisses escarpées dans mon carquois, être inadéquat demeure priorité. Ivresse lexicale, écrire des vers au mescal, poursuivre des escales, assis, assis, tal quoi. Système des terres, des mers, des contre-dribles, trouver des combustibles non imposables, ces insatiables cames qui te criblent. La liberté s'arrache sûrement comme leurs câbles. Sous les hélicos ragisseurs, tapageurs et patrouilleurs, je regarde le monde à l'extérieur avec ce que j'ai à l'intérieur. Sous les hélicos ratisseurs, des prestidigitateurs font suinter la sueur et s'introduisent au sécateur pour écrire à l'extincteur. On regarde le monde à l'extérieur avec ce qu'on a à l'intérieur. Entre les stalactites de crasse et leurs bas-reliefs, je pose mes sticks et je rase plus vite que le zèf. J'ai vu pousser les grilles et les pics anti-SDF et ces accouloirs sadiques tandis que dans le ciel de la def. Squat les races, casse de l'air, squat ma rue sans payer taxes, aucune gangrène m'a vu. Comme ces écus sont bancaires à l'affût du moindre espace nu pour planter leurs drapeaux et leurs grues. Tous les 14 juillet prennent les nuages en otage, éclairage à l'excès, mirage et gaspillage, quadrillage, flicage, fichage, filtrage, péter les accès, trouver les passages, pourvu que la porte s'ouvre, je jouerai à ce que je trouve, voué à finir sourde, j'entends la valse de mon pouls dans les forêts de mes doutes, elle marche à pas de loup, et les soirs de pleine lune, elle me donne rendez-vous. Sous les hélicos ratisseurs, tapageurs et patrouilleurs, je regarde le monde à l'extérieur avec ce que j'ai à l'intérieur. Sous les hélicos ratisseurs, des prestidigitateurs font suinter la sueur et s'introduisent au sécateur pour écrire à l'extincteur. On regarde le monde à l'extérieur avec ce qu'on a à l'intérieur. J'étais petite, je regardais la street et je croisais ce type qui avait l'air addict d'écrire seul au feutre des briques et des vitres. C'était ça son trip à défaut d'une clique. J'étais son public et je me suis dit qu'on était peut-être une meute. Et je me suis dit qu'on était peut-être une meute.
Vous êtes de retour dans Carapatage jusqu'à 22h en direct sur Radio Libertaire 89.4 FM. Un mercredi sur deux, le premier et troisième mercredi du mois en direct. Et donc on vient d'écouter Merle Mocker de Billy Warlock. Et on va écouter Kate qui va parler de l'enfermement des mineurs en centre de rétention.
Oui. Henri, tu l'as dit aussi en début d'émission dans ta brève, avec l'enfermement des mineurs, du coup il y a des choses qui, enfin avec la loi asile immigration là qui a été votée hier soir, il y a des choses qui changent pour l'enfermement des mineurs en centre de rétention. Et du coup je voulais revenir un peu là-dessus, de à la fois comment c'est maintenant et qu'est-ce que exactement la loi elle va changer sur l'enfermement des mineurs. Du coup, jusqu'à maintenant, la loi, elle interdisait le placement en rétention des mineurs de moins de 18 ans lorsqu'ils étaient isolés. Mais elle permettait de placer les mineurs en rétention quand ils étaient accompagnés d'un étranger majeur. Et du coup, c'était possible, voilà, d'enfermer les mineurs dans des centres de rétention. Et là, il y a une loi en 2016 qui va autoriser ce placement en rétention pour les mineurs accompagnés d'un majeur, sous certaines conditions. Donc ça va être lorsque le parent accompagnant a enfreint une précédente assignation à résidence, lorsqu'il a fait obstruction à une mesure d'éloignement, et en cas de placement dans les 48 heures précédant un départ programmé, sous réserve de respecter l'intérêt du mineur. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est l'intérêt du mineur ici, mais bref, passons. Et du coup, dans ces cas-là, les familles, elles étaient enfermées dans des zones dédiées dans les CRA, où c'est des zones qui sont séparées des zones d'enfermement des hommes. Mais voilà, des fois juste par une simple grille, mais c'était une partie un peu séparée. Et ça devait être adapté, donc devait y avoir une salle, ce qu'ils appellent une salle de détente, et du matériel de puériculture. Et en fait, tous les CRA n'ont pas des espaces familles, donc il y a 10 CRA en France qui ont des espaces familles, et la plupart des familles, elles étaient conduites de force dans les CRA de Metz et le CRA du Ménilamno, où c'était là où les familles étaient le plus enfermées. Donc voilà, où notamment au Ménil, il y a un secteur qui est dédié aux familles avec 24 places, où c'est sous la forme de pavillons où les familles sont enfermées dans ces pavillons-là avec différentes chambres. Donc voilà, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait les familles, elles sont souvent placées en CRA en fin de journée pour après être amenées à l'aéroport le lendemain matin. Et c'est justifié par l'administration parce que c'est plus simple de manière organisationnelle pour elles de placer les familles en CRA le soir pour passer la nuit là, pour pas avoir à aller les chercher le lendemain matin pour les expulser. Donc voilà. Mais ça arrive aussi que l'enfermement en CRA de ces familles, elle dure plus longtemps. Donc des durées supérieures à une semaine, du coup ça pouvait aller jusqu'à souvent deux semaines, même si la France du coup elle a été condamnée déjà plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir placé des mineurs plus de 7 jours dans les CRA, ce qui est censé être la réglementation européenne. Donc voilà, c'était un peu ça ce qui se passait actuellement. Et dans la loi Darmanin qui a été votée hier, donc il y a un article sur l'enfermement des mineurs, où en fait initialement dans le projet de loi c'était l'interdiction de l'enfermement en CRA des mineurs et de leurs familles, mais uniquement si les mineurs ont moins de 16 ans, et c'était uniquement en métropole. Donc c'était possible notamment à Mayotte et c'était possible donc entre 16 et 18 ans et aussi dans les locaux de rétention administratifs. Et avec la loi qui a été votée hier, c'est finalement l'interdiction du placement en rétention pour les mineurs de moins de 18 ans, du coup en CRA et dans les locaux de rétention administrative. Mais de ce que j'ai compris, Mayotte reste quand même exclue de cette disposition-là. Donc ça veut dire qu'à Mayotte, les enfants, les mineurs vont continuer à être enfermés en CRA, et je vais revenir sur Mayotte après parce qu'en plus c'est là où en fait le fait de ne pas interdire Mayotte, de ne pas interdire ce placement à Mayotte, ça correspond aussi au fait que en fait c'est là où le plus de mineurs sont enfermés dans des CRA. Et du coup, juste avant de parler de Mayotte, je voulais un peu revenir parce que du coup c'est interdit aussi dans les locaux de rétention administratifs, et du coup je voulais revenir un peu là-dessus parce que donc au départ ça faisait pas partie de la loi d'exclure les mineurs de l'enfermement dans des locaux de rétention administratifs parce que en fait il y a eu une circulaire en 2022 de Darmanin où déjà il annonçait vouloir faire passer le nombre de places en LRA de 154 à 300 en 2023. Et peut-être je vais rappeler ce que c'est les locaux de rétention administrative. Du coup, c'est des lieux qui servent à enfermer des personnes qui n'ont pas les bons papiers, donc un peu comme les CRA avant de les expulser. Mais là, dans ces locaux, elles sont enfermées au maximum 2 jours et jusqu'à 5 jours dans certains cas. Et en fait, au bout de 2 jours, si la personne n'est pas expulsée, elle est enfermée en CRA, en centre de rétention administratif. Et c'est très flou le nombre de LRA qu'il y a, parce que c'est aussi sous créé au bon vouloir des préfets. Donc il y en a des temporaires et d'autres qui sont plus pérennes. Mais donc voilà, ils peuvent aussi être créés de manière temporaire pour des plus courtes durées. Et donc c'est des endroits où les avocats ne sont pas obligatoires, il n'y a pas d'unité médicale, il n'y a pas de visite, il n'y a pas d'espace extérieur. Et donc, dans cette circulaire où le gouvernement disait vouloir faire passer le nombre de places en locaux de rétention administrative à 300 places en 2023, cette circulaire encourageait aussi à faire en sorte que les locaux de rétention administrative, ils servent notamment à enfermer les familles avec enfants avant leur expulsion, pour permettre d'utiliser les zones dédiées aux familles dans les CRA pour enfermer encore plus de personnes. Du coup, pour réutiliser ces locaux-là pour enfermer plus de personnes, pour avoir plus de lits pour enfermer d'autres personnes, et de privilégier plutôt les familles avec enfants dans les locaux de rétention administrative parce que ça durait moins longtemps, enfin parce que en fait généralement les familles elles étaient enfermées juste pour passer la nuit avant d'être expulsées, et parce que c'est un endroit aussi plus discret où c'est moins visible quoi. Du coup c'était ça un peu la logique, et avec là on peut se dire qu'avec l'interdiction d'enfermer les mineurs dans des CRA, en fait, ça va faire que ces espaces familles, ils vont aussi être convertis pour enfermer toujours plus de majeurs. Et donc, avec cette nouvelle loi, Donc ça dit que si donc les mineurs et leurs familles peuvent pas être placés, enfin peuvent plus du coup être placés en CRA et en LRA, ils vont plutôt être assigné à résidence dans l'attente de l'expulsion, ou là du coup voilà, où l'assignation à résidence ça reste quand même une forme de contrôle, une forme d'enfermement, où là les personnes du coup, les familles vont se retrouver dans un lieu fixe avec un périmètre autour, avec une obligation de pointer régulièrement à la gendarmerie, au commissariat, avec aussi des pointages qui peuvent obliger les parents à se présenter avec leurs enfants pendant les heures de cours, ça déstructure quand même, ça a quand même des effets importants sur la vie des gens finalement. Cette loi par contre, elle concerne pas les zones d'attente, et du coup ça veut dire que donc les zones d'attente qui sont dans des lieux d'enfermement aussi, dans les ports, les aéroports, les gares, et qui servent à enfermer les gens quand la police aux frontières refuse l'entrée sur le territoire des personnes qui arrivent, et du coup qui sont enfermées dans une zone d'attente pour une durée qui peut aller jusqu'à 20 jours. Et là aussi, y a des mineurs qui sont enfermés dans cette zone d'attente, que ça soit des mineurs accompagnés comme des mineurs non accompagnés. Et en fait, le seul truc qui change quand il y a des mineurs non accompagnés, c'est le fait que le procureur de la République désigne un administrateur qui est censé les assister et les représenter pendant toute la procédure. Mais après, ils sont dans les mêmes conditions que les majeurs dans ces zones d'attente. Et du coup, pour revenir un peu sur Mayotte et le fait que Mayotte est exclue de cette interdiction. Et en fait, c'est le fait que Mayotte soit exclue de cette interdiction, c'est dans la ligne de la politique coloniale et raciste que la France, elle impose à Mayotte. Et en fait, Mayotte, c'est là où sont massivement enfermés les mineurs dans le CRA de Pamandzi. Et un peu pour donner des chiffres, pour se rendre compte, en 2022, il y a 2905 mineurs enfermés à Mayotte. Et dans le même temps, c'était 94 mineurs dans l'Hexagone. Du coup, c'est vraiment énormément de mineurs qui sont enfermés là-bas. Il y a un enfermement massif qui est aggravé aussi par le fait que c'est quasiment impossible de faire un recours une fois placé dans le CRA, parce que souvent l'expulsion peut arriver avant l'examen du recours de l'obligation de quitter le territoire. Il y a aussi, parce qu'il y a des nombreuses pratiques dans les CRA de falsifier la date de naissance de l'état civil pour les faire passer pour majeurs. Du coup, il y en a beaucoup qui sont enfermés, enfin beaucoup de mineurs qui sont enfermés en étant considérés comme des majeurs. Ou alors, on les rattache de manière arbitraire à des adultes qui ne sont pas leurs parents pour pouvoir les enfermer, donc pour pouvoir dire que ce n'est pas un mineur isolé parce que telle personne est son père, alors que pas du tout. Et du coup, c'est des pratiques qui sont vraiment massivement employées dans les CRA à Mayotte. Et voilà. Et sur le fait d'enfermer des mineurs en les faisant passer pour majeurs, ça arrive aussi, enfin ça arrive pas qu'à Mayotte, ça arrive aussi dans l'Hexagone où il y a de nombreux mineurs qui racontent que leur date de naissance, en fait, qui dit qu'ils sont majeurs, leur a été attribuée arbitrairement par les services de police, par l'interprète, ou par des tests osseux très, très douteux, par de nombreux trucs où en fait ils vont être considérés comme majeurs et du coup enfermés dans les mêmes conditions que les majeurs. Et voilà.
Du coup, la seule mesure, un peu humaine de cette loi n'en est pas vraiment une.
Ouais, et puis je pense que ça nous... Enfin, tout ce que tu as dit, ça nous reprécise la longue tradition de genre d'exception autour de Mayotte, où il y a un droit spécifique à Mayotte sur plein de trucs différents. Et notamment l'immigration entre mille guillemets en fait partie, les droits des personnes qui habitent là-bas sont pas du tout les mêmes qu'ici, et genre sont souvent et ça crée des conditions de vie plus difficiles, quoi.
Oui, c'est ça. Et j'ai dit qu'à Mayotte, c'est là où sont le plus enfermés des mineurs en CRA, mais c'est aussi le cas des majeurs. Enfin, le nombre de majeurs qui sont enfermés à Mayotte en CRA, il est vraiment énorme par rapport aux chiffres dans l'Hexagone, et qui sont déjà aussi énormes. Mais parce qu'il y a aussi tout un truc de régime dérogatoire. La police, elle a pas les mêmes en termes de contrôle d'identité aussi. Elle peut beaucoup plus facilement contrôler l'identité. Du coup, après mettre en CRA si les personnes n'ont pas les papiers qu'il faut. Et expulser aussi plus facilement, ce fait de en fait être expulsé alors qu'il y a un recours, c'est pas possible en France dans l'Hexagone, mais c'est possible tout à fait à Mayotte d'expulser pendant le recours. Et du coup, il y a, une fois qu'on est enfermé en CRA, en fait, l'expulsion, elle peut se passer très très vite, quoi.
Et ouais, globalement, dans plein de lois, il y a pas mal sur les lois sur l'immigration, il y a pas mal d'exceptions pour Mayotte, la Guyane. Mais en général, dans toutes les lois, il y a souvent des exceptions, surtout les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer. Ça, c'est une politique sur plein de sujets d'exception, quoi.
Qui est, enfin, on l'a déjà dit dans plusieurs émissions, mais qui genre, est l'héritage d'une politique coloniale autour de ces territoires qui, genre, encore aujourd'hui, sont considérés comme des colonies, quoi.
Ouais. Ben, on va écouter une petite musique.
Somebody in our circles, the embodied selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She is cutthroat and envious from toe up, but she will never admit it though. She's by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for your downfall. But guess what, mid-thing? You got it all wrong, 'cause I figured you out from the beginning. Whatever she gets, whatever is not enough. Whatever she takes, whatever she wants. She wants your man, she craves your job, she dreams your life, and everything that goes with it.
vient d'écouter Let a Bitch Know de Kitty Smile. Je vous invite vraiment à regarder le clip sur lequel on voit du voguing devant une voiture brûlée, une batte de baseball en train de détruire la même voiture avant qu'elle soit brûlée. Voilà, ça donne la pêche. On kiffe. J'ai dit ça donne la pêche comme si genre j'avais je sais pas quel âge.
Eh ben oui, on confirme que je sais pas quel âge.
Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage, contre toutes les cages.